Merci beaucoup Christine. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est plus dans le cadre de mes précédentes fonctions que j'interviens aujourd'hui. Donc, j'étais chef du bureau de la lecture publique. J'ai indiqué effectivement sur cette première diapositive deux publications auxquelles j'ai contribué. Donc la première, effectivement, Concevoir et construire une bibliothèque, deuxième édition, avec Odile Grandet notamment. Les éditions du Moniteur réfléchissent à la troisième édition, hein, c'est 2016. Donc en fait, tous les cinq ans, une nouvelle édition de Concevoir et construire une bibliothèque ouvre. La deuxième édition avait apporté un certain nombre d'exemples sur lesquels je vais m'appuyer et avait lancé la réflexion sur la mutualisation des équipements, ce qui n'était pas le cas en 2011. Donc on voit l'évolution et je pense que la troisième édition, celle de 2024 sans doute, sera encore plus, la question de la mutualisation des équipements sera encore plus présente, que ce soit pour les bibliothèques territoriales, on le sent, puisque une autre publication à laquelle j'ai contribué, également donc Raphaël Gilbert, qui aujourd'hui représente le service du livre et de la lecture dans cette journée d'études, c'est Bibliothèque territoriale, dispositif d'accompagnement de l'État et témoignage d'élus. Donc c'est une coédition avec la FNCC, la Fédération nationale des collectivités pour la culture. Et qu'on a établi ces différentes fiches que vous pouvez télécharger en ligne sur le site de la FNCC ou du ministère de la Culture, il nous a été souvent posé la question de la mutualisation des équipements. Et on sent que pour les élus, et ça s'est vu encore au Salon des maires, c'est un enjeu important. À nous, professionnels, de répondre effectivement à cette demande avec les architectes, puisqu'on va voir qu'il y a une grande dimension architecturale, c'est pour ça que j'évoque concevoir et construire une bibliothèque, mais aussi surtout avec effectivement la question des élus, des administrations en fait territoriales, puisqu'effectivement ces différents équipements doivent travailler ensemble, donc ça pose la question effectivement de la gouvernance, du management, de la formation des équipes et du travail en commun en fait, hein. C'est un grand enjeu. Donc c'est une proposition d'historique du sujet, hein, vous voyez, ça reste modeste parce qu'effectivement toute personne qui serait intervenue à ma place l'aurait sans doute écrit différemment, donc c'est très subjectif, c'est surtout pas exhaustif. Il y a des exemples qui n'apparaîtront pas. L'équerre d'argent pour effectivement le projet de Grasse n'apparaîtra pas. Alors, ce n'est pas tout à fait un équipement mutualisé, donc ça peut aussi s'expliquer dans ce sens-là. Et le forum des projets cet après-midi sera là pour diversifier encore les exemples présentés. Et donc, c'est un tour d'horizon de réalisation récente en France que je vous propose. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis depuis le 1er septembre responsable du service de la Bibliothèque des Archives nationales, à la fois à Paris, donc je suis un voisin de la BPI, mais également à Pierrefitte. C'est aussi une mutualisation en quelque sorte, hein, puisqu'être bibliothécaire d'archives, c'est, on l'a vu encore dans une journée de l'AF, l'Association des archivistes de France, c'est aussi un défi en fait, hein, de venir sur d'autres cultures, d'autres métiers, une autre approche pour venir effectivement parler de bibliothèques dans ce monde-là. Donc tout d'abord, effectivement, l'histoire, hein, si on remonte au 19e siècle, à la création des bibliothèques municipales, il y a une grande proximité entre bibliothèques et musées. On le voit encore à Rouen, par exemple, où la bibliothèque Jacques Villon, c'est d'un côté, donnant sur le square, le musée des Beaux-Arts de Rouen, de l'autre côté, la bibliothèque patrimoniale, la bibliothèque d'études patrimoniales de Rouen. Ce n'est plus la centrale, comme c'était à l'origine, mais ça reste effectivement un équipement en quelque sorte qui se tourne le dos. On va voir que quelquefois la mutualisation, quand elle ne réussit pas, on se tourne le dos, c'est-à-dire que l'entrée est de chaque côté en fait du bâtiment. On a le cas effectivement à Amiens, où là c'est vraiment la bibliothèque médiathèque Louis Aragon, où à l'entrée, dans le hall, on a une entrée bibliothèque, une entrée musée. Et c'est assez net. Hein, aujourd'hui, c'est une seule médiathèque, mais on voit encore bien les petits frontons. Alors effectivement, Christine connaît bien effectivement cette architecture puisqu'elle a dirigé la bibliothèque d'Amiens. C'est très net en fait. Hein, c'est deux entrées qu'on retrouve à Grenoble, également un équipement que Christine a dirigé. La bibliothèque effectivement sur la place de la République, qui n'est plus la bibliothèque aujourd'hui, hein, avait ces deux frontons bibliothèque musée. Mais c'était deux entrées. Il y avait un hall partagé et après il y avait deux entrées. Quand j'ai été à la bibliothèque de Brest, avant que ce soit les Capucins, on a préparé les Capucins, on était à la bibliothèque d'études, et c'était ce qu'on appelait le carré des arts, qui avait été constitué à la reconstruction, avec l'école des Beaux-Arts, l'école de musique, le musée des Beaux-Arts et la bibliothèque d'études. Et l'idée, c'était effectivement que ce carré des arts fonctionne ensemble. En fait, au centre, c'était personne n'y allait, tout le monde se tournait le dos. Donc, c'est dire effectivement que longtemps, il y a eu l'idée et l'architecture de rassembler effectivement des équipements culturels, ça n'a pas souvent fonctionné. Alors, plus récemment, et là, ça fonctionne, effectivement, c'est la bibliothèque-musée de Linguin-Bertine à Carpentras. Donc là, il y a effectivement la bibliothèque qui est déjà ouverte et le musée va bientôt ouvrir sous la même gouvernance. Et donc, c'est l'Hôtel Dieu de Carpentras. Donc, c'est Jean-François Delmas qui a lancé le projet scientifique, culturel, éducatif et social. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un équipement qui devrait fonctionner dans son intégralité, bibliothèque-musée, dans les prochains temps. Alors, donc voilà pour la partie musée, c'était plus pour donner ce cadre-là, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de réalisations récentes de bibliothèque-musée, si ce n'est effectivement Linguin-Bertine à Carpentras, mais pour des questions très historiques, en fait, d'une implantation dans un hôtel-dieu fondé par Monseigneur Dinguimbert, et donc il y a tout un cadre historique qui explique en fait ce rapprochement. Alors Christine l'a évoqué en ouverture, la BPI, 1977, c'est effectivement une bibliothèque intégrée en fait à un musée, un centre plus exactement, comme elle l'a très bien expliqué. On a le cas aussi de la Bibliothèque des sciences et de l'industrie, qui est intégrée à la Cité des sciences. Donc là, fonctionnement assez proche en fait, avec effectivement un hall et puis effectivement une répartition du flux des visiteurs. Avec la question qui est toujours posée, est-ce que ce public se rencontre? Est-ce qu'il est le même? Est-ce qu'il y a une mutualisation de public ou est-ce qu'il est bien distinct? Là, on le voit, c'est souvent assez bien distinct quand même. Ceux qui vont à la BPI, ceux qui vont au musée, à la BSI, c'est un peu la même chose, effectivement. Il y a ceux qui vont à la Cité des enfants, il y a ceux qui vont au musée, il y a ceux qui vont à la BSI. Et on voit souvent une sous-fréquentation côté BSI des espaces. Donc, les espaces sont plutôt fréquentés par le public de proximité pour la BSI. On a également, en région, dans le cadre des bibliothèques à vocation régionale, dont on reparlera, les champs libres à Rennes. Alors, cet après-midi, vous aurez plutôt la toute dernière bibliothèque du réseau rennais qui vient d'ouvrir, Antipode. Mais vous avez effectivement l'exemple des champs libres à Rennes avec trois équipements. Et ça se voit, l'architecture de Christian de Porzampar identifie en fait les différents secteurs. La bibliothèque, c'est cet espace blanc qui monte. Le socle, c'est le musée de Bretagne. Et le dôme, c'est le centre de culture scientifique, l'espace des sciences, effectivement, de Rennes. Alors, Marine Bedel, qui a dirigé longtemps l'équipement, me disait que ce n'est pas un équipement mutualisé, en fait. C'est-à-dire qu'on partage très peu de choses. Il y a le hall, et les publics vont... Et même pour gérer des activités en commun, par exemple, il y a eu l'exposition Arthur, le roi Arthur, et au final, ça n'a pas vraiment marché. Chaque salle était confiée au musée de Bretagne, à la bibliothèque. On avait les manuscrits à la bibliothèque, dans la partie bibliothèque. Et l'espace des sciences avait essayé de penser à la forêt de Brocéliande, par exemple. Donc, c'est toute la difficulté, quelquefois, même quand, dans l'équipe de direction, on décide un projet commun, de faire en sorte que les équipes vraiment s'hybrident et mutualisent en fait, leur approche en fait, d'un sujet. Alors, côté archives, il y a beaucoup de projets, en fait, et actuellement, on en a encore un certain nombre qui se conçoivent. On peut penser, bien sûr, aux bibliothèques départementales, le projet de Pierre Vive dans l'Hérault. On peut également penser à bibliothèque archives départementales de Gaston Defer pour les Bouches-du-Rhône, et récemment, l'Aisne, donc à Lens, avec, effectivement, archives départementales et bibliothèques. Mais on le voit également au niveau des intercos. Alors, historiquement, vous savez que dans le Nord, notamment, un certain nombre de fonds d'archives municipales sont gérés, en fait, par la bibliothèque à Valenciennes. C'est historique, en fait. C'est depuis, effectivement, le 19e siècle qu'il y a cette gestion, en fait, par la bibliothèque du fonds d'archives municipales. Donc, c'est souvent très proche avec les fonds patrimoniaux de la bibliothèque. À Roubaix également. À Aix-en-Provence, c'est aussi une tradition, en fait. Alors, c'est un nouveau centre, le centre Michel Vauvel, qui est juste à côté de la Cité du Livre, qui accueille aujourd'hui à la fois les collections patrimoniales de la Méjane, mais également les archives municipales d'Aix-en-Provence. Donc, c'est un peu bipartite. Il y a la Cité du Livre pour la lecture publique et le patrimoine, collection patrimoniale de la bibliothèque plus archives municipales qui sont conservées à proximité dans un centre Michel Vauvel qui est vraiment très beau. D'ailleurs, les prochaines journées patrimoine écrit en 2023 auront lieu à Aix-en-Provence et on pourra effectivement visiter à la fois le centre Michel Vauvel et la cité, la Méjane rénovée, puisqu'elle est en cours de réhabilitation avec le soutien de l'État. On peut penser également à Melun, la très belle architecture de l'Astrolabe, avec au dernier étage, tout en haut, les archives municipales. Donc ça permet effectivement, et là ça fonctionne plutôt bien dans l'interaction de la programmation culturelle et éducative, pour l'accueil des scolaires notamment. Et ce que j'ai mentionné, ce que j'ai reproduit en photo, c'est la tour Maubourg. Donc c'est une architecture Rudy Ricciotti qui associe à la fois l'équipement central de lecture publique de Valence Aglo, mais également les archives municipales et communautaires. Et donc la partie centrale, elle est lecture publique. Et sur le côté, vous avez une salle, effectivement, dédiée aux archives. Mais le projet scientifique et culturel a été articulé entre la partie bibliothèque et la partie archives. Donc là, on voit l'hybridation, effectivement, entre institutions culturelles. Ce qu'on a vu également se mettre en place, de longue date, en fait, c'est le lien avec les écoles, avec les CDI, les BCD, les bibliothèques centres de documentation pour les écoles primaires, et les centres de documentation et d'information, les CDI, dont l'éducation nationale souhaite transformer en 3C, centre de connaissances et de culture. Ce n'est pas encore tout à fait acté, mais c'est l'intention. Donc on voit cette volonté de se rapprocher en fait, des bibliothèques de lecture publique. Ça interpelle. Puisqu'effectivement, une bibliothèque de BCD ou une bibliothèque de CDI n'est pas fondamentalement une bibliothèque de lecture publique. Ça se destine avant tout à un public jeune, et ça limite en fait la consultation par les adultes en fait de ces équipements. On le voit notamment en Outre-mer. On a la réflexion sur la Polynésie française où les espaces bibliothèques déclarés par les collectivités sont en fait des BCD, des bibliothèques d'école. Et quand on regarde de plus près, on voit que le public est essentiellement scolaire. Et donc ça limite en fait la diffusion de la lecture publique en Polynésie française. Alors, il y a d'autres éléments, l'oralité, d'autres éléments, mais c'est pour ça qu'on est assez vigilant sur ces questions, effectivement, surtout d'horaire d'ouverture de ces équipements hybrides, notamment en zone rurale, entre donc CDI pour les collèges et les lycées, et BCD pour les écoles primaires, et lecture publique. Ce qui est assez fréquent, c'est l'hybridation dans un centre culturel, maison de la culture, entre bibliothèque et salle de spectacle. Et Rennes, effectivement, est un très bon exemple, l'ouverture récente. Mais on peut aussi citer le centre culturel Equinox à Châteauroux, que vous voyez en photo. Donc vraiment, c'est souvent un hall et deux espaces, puisqu'il y a la grande salle, les salles de représentation pour la partie salle de spectacle, et puis effectivement la partie bibliothèque que vous voyez au premier plan de la photo. Il y a également la lanterne à Rambouillet, qui est une partie lecture publique et patrimoine, et une partie salle de spectacle. C'est également le cas à Alfortville ou à Chelles-Gournay. Alors, on le verra tout à l'heure, pour le soutien de l'État, ça interpelle. Je vais vous parler tout à l'heure de la question du mètre carré bibliothèque, et notamment de notre principal dispositif, le concours particulier de la bibliothèque de la dotation générale de décentralisation, où malgré nos réécritures, il y a encore toujours la question, effectivement, qu'est-ce que dans un équipement mutualisé est bibliothèque et qu'est-ce qui est autre ? Et pour les salles de spectacle, il y a quelquefois un peu le souhait des élus de vouloir surtout un auditorium, une salle de spectacle, et parce qu'il y a un dispositif d'aide bibliothèque, ils adossent en fait quelques centaines, quelques mètres carrés de bibliothèque. Non, c'est avant tout. C'est la question effectivement de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait vraiment une bibliothèque avec son ADN ? En plus, on a la loi bibliothèque maintenant qui définit ce qu'est une bibliothèque. Et qu'est-ce qu'est une salle de spectacle, un auditorium ? Mais on a eu le cas à Carcassonne, par exemple, où les élus voulaient absolument avoir un auditorium, et ils essayaient d'utiliser la DG des bibliothèques avec quelques mètres carrés en fait, de lecture publique. On a dit non, là, c'est avant tout un projet d'auditorium. Ne dénaturez pas en fait, devrait être une bibliothèque pour le réseau des bibliothèques de Carcassonne. Une réalisation tout à fait intéressante, c'est en Bretagne, Beau, le Quattro. Alors rien que son nom montre effectivement qu'il est composite, hein, de quatre entités. Vous l'avez en photo. C'est vraiment une très, très belle architecture. Hein. C'est en centre-Bretagne. Mais si vous avez l'occasion de la visiter, il y a Pontivy aussi. Hein. En Bretagne, il y a toujours eu vraiment des générations de bibliothèques, hein, qui se sont mises en place. Et là, c'est Pontivy et Beau qui sont particulièrement intéressantes. Mais il y a aussi effectivement Saint-Malo, Dinan. On a vraiment toute une série de très belles réalisations en Bretagne. Donc là, pour Beau, c'est une médiathèque, un musée de la carte postale. Donc on retrouve quand même la dimension musée, mais c'est plus de l'iconographie et des documents qu'on peut retrouver d'ailleurs dans nos collections de bibliothèques ou d'archives. Et puis l'office de tourisme. Alors l'office de tourisme pose souvent la question, un peu comme les centres de culture scientifique et technique, du statut associatif, qui fait que ce n'est pas toujours évident de faire travailler un office de tourisme et une bibliothèque. Dans un certain nombre de stations balnéaires ou de stations de ski, l'expérience a rarement été concluante en fait. Puisque quand on renseigne un office de tourisme, on n'est pas à pouvoir gérer la bibliothèque, mais ça peut gérer la saisonnalité quelquefois. En tout cas, c'est souvent perçu de cette manière-là, avant que la réalité montre que c'est pas forcément c'est une fausse bonne idée, au final. Alors, une dimension qu'on a beaucoup débattue en journée d'études, c'est la question, effectivement, bibliothèque territoriale, bibliothèque universitaire, carte documentaire, notamment Albert Poirot, qui a été un des grands inspecteurs de l'inspection générale des bibliothèques, organisait même à Strasbourg des colloques, des journées d'études sur la mutualisation bibliothèque territoriale et universitaire. Force est de constater qu'on n'a pas beaucoup d'exemples de réussite. Il y a quelques partenariats qui fonctionnent, hein, à Compiègne, à Troyes, mais c'est les universités de technologie qui, bien souvent, sont extérieures à la ville. Et donc, il est utile, le week-end notamment, de pouvoir effectivement ouvrir des espaces aux étudiants de ces universités dans la médiathèque de Troyes, Jacques Chirac, hein, Troyes-Champagne Métropole, et dans, à la bibliothèque de Compiègne, Saint-Corneille. Mais c'est vraiment des espaces dédiés, c'est quasiment des zones réservées aux étudiants, un peu comme à Valence, avant la bibliothèque de la Tour Maubourg, où il y avait deux entrées. L'entrée lecture publique et l'entrée universitaire. Et quand vous entriez à l'entrée universitaire, on vous disait « Mais vous êtes étudiant de l'université de Valence ?»« Non, pas forcément, mais est-ce que je peux accéder quand même aux collections ?»« Ah, c'est gênant. » Donc, on voit effectivement qu'il y a cette question-là. Et on voit aussi une autre réalisation emblématique qui se sont séparés. Hein. David Jonathan Ben-Ruby parle de divorce, effectivement. C'est Clermont-Ferrand. Avec donc la bibliothèque qui va bientôt ouvrir de l'Hôtel Dieu, qui est lecture publique et patrimoine, et la bibliothèque universitaire, effectivement, se repense séparément. Alors ça a été compliqué, hein, puisque certaines collections avaient été acquises par la BCU, par la bibliothèque communautaire et universitaire. Il a fallu, comme dans tout divorce, savoir quelles étaient les collections qui restaient côté universitaire, quelles étaient les collections qui restaient à la communauté de Clermont Métropole. Donc aujourd'hui, effectivement, Valence comme Clermont-Ferrand ont construit deux équipements, deux très beaux équipements, mais séparés en fait de l'université. Par exemple, à Valence, en fait, c'est une caserne, hein, la Tour Maubourg qui a été rénovée, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. La bibliothèque universitaire, c'est un des bâtiments sur la place d'armes. Mais quand on pose la question aux collègues, vous travaillez beaucoup avec la BU ? Pas forcément, ils sont là, nous on est là. Et en fait, c'est le public en fait, qui doit faire la jonction entre les deux espaces. On a aussi le projet de La Rochelle, hein, qu'Olivier Caudron connaît bien, de l'inspection, où là, on voit effectivement qu'il y a eu deux architectures. C'est une même parcelle et deux architectures. L'architecture Michel Crépeau, la médiathèque Michel Crépeau, qui est tournée vers le Vieux-Port, et la partie bibliothèque universitaire que vous avez en photo, qui est tournée effectivement vers la partie vers la gare, en fait. Et il était prévu effectivement un couloir de jonction, et souvent la porte est fermée, parce qu'en fait elle donne sur la cafette des étudiants, et à une époque ils fumaient, et ainsi de suite, c'est resté dans les habitudes, et la fumée arrivait jusqu'à la lecture publique, et donc il fallait fermer cette porte. Donc en fait, aujourd'hui, de temps en temps, hein, les directions se parlent, et disent qu'il faut rouvrir cette porte, surtout en hiver, quand le climat ne s'y prête pas. Mais vous voyez à quel point, effectivement, on peut arriver en termes de défaut de mutualisation, sachant que l'architecture est vraiment très différente. C'est-à-dire les deux architectes qui ont été choisis de part et d'autre sont très différents. Et donc, on est dans deux environnements, deux ambiances très confortables côté lecture publique, plutôt très documentaires côté universitaire. Il y a eu le projet effectivement de Brest. Quand j'étais à Brest, on avait travaillé un projet de bibliothèque municipale, bibliothèque universitaire, avec la bibliothèque, l'université de lettres. Ça ne s'est jamais fait. Hein. Victor Ségalin est une bibliothèque universitaire, sans lecture publique. Et ce qui nous a permis après d'aller sur les Capucins et de construire effectivement cette très belle bibliothèque lecture publique, mutualisée avec d'autres types d'équipements, avec passerelles. Et donc c'est un autre projet qui a pu voir le jour après l'échec effectivement de la partie BMBU. Et Strasbourg, c'est la même chose en fait. Hein. La bibliothèque André Malraux, on a dans les archives du service du livre et de la lecture des projets en fait d'implantation d'une antenne universitaire dans l'espace effectivement André Malraux. Finalement, vous savez effectivement, c'est les premiers équipements qui sont devenus la médiathèque André Malraux. Et derrière, en fait, c'est des restaurants, c'est d'autres projets qui ont vu le jour. Mais l'idée sur cette presqu'île était d'installer un projet BMBU. Alors, la seule réalisation qui fonctionne, hein, c'est celle de Blois, la bibliothèque Abbé Grégoire, qui a une section, en fait, pour les étudiants. Mais ça reste une section au sein d'un équipement qui est perçu par la population comme étant une bibliothèque de lecture publique. Mais c'est aussi parce que l'université est plus loin, en fait, l'université de Tours et ainsi de suite. Et donc, ça permet effectivement d'avoir une bibliothèque universitaire de proximité dans le bâtiment de l'Abbé Grégoire. Et puis, on a un projet compliqué, mais qui avance, hein, le projet de Besançon. Alors, c'est aussi parce qu'on l'a implanté dans un hôtel Dieu. Et là, c'est un projet BMBU. Alors, bientôt, Bibliothèque Métropole de Besançon, Grand Besançon, donc intercommunal, et la Bibliothèque Universitaire de Lettres. Mais ce qu'on voit pour les universités, c'est que, bien souvent, en périphérie, ils sont plutôt, effectivement, à vouloir construire des learning centers que de chercher à s'hybrider. Et c'est parce qu'il y avait des collections patrimoniales à la Bibliothèque Universitaire de Lettres, et puis parce qu'il y avait le souhait, effectivement, en centre-ville, d'avoir effectivement un équipement universitaire. Le projet, il est un peu quand même distinct, hein, c'est-à-dire qu'il y aura le hall, et après, effectivement, il y aura des espaces lecture publique, patrimoniaux, et des espaces universitaires. Il y a peu de choses quand même qui sont mutualisées, avec donc la partie universitaire toujours gérée par le service commun de documentation et la partie lecture publique patrimoine par la direction des bibliothèques par Henri Ferreira Lopez. Donc, on n'a pas aujourd'hui d'exemple en fait vraiment d'une mutualisation comme on peut avoir en lecture publique, de mutualisation poussée assez loin, comme vous le verrez dans les forums des équipements ou dans la table ronde qui va suivre. Alors, il y a également la médiathèque et le centre social. Alors, c'est un peu notre emblème, hein, c'est Signy l'Abbaye. 2001. Alors effectivement, c'est dans les archives de l'Internet, hein, que j'ai retrouvé. Mais c'est intéressant de montrer le projet scientifique de 2001. Donc, dans les Ardennes, effectivement, le centre donc Yves Coppens, qui fonctionne toujours. Les collègues sont contents. Hein. C'est vraiment une fierté, en fait, pour la collectivité d'avoir réussi à implanter dans un même bâtiment un centre social et une médiathèque. Il y a une dynamique récemment sur le thème de la médiathèque et du centre social, c'est avec le lancement des maisons de services du public, les MSAP, devenues France Service, les maisons France Service, et notamment dans le Lot ou en Seine-et-Marne, on a eu deux très belles réalisations. Par exemple, à Casals-Salviac, dans le Lot, c'est une bibliothèque auquel on a ajouté en fait une dimension service au public. Donc l'accès au droit, hein, c'est ça qui est assez sensible, c'est venir effectivement sur l'accès au droit, donc un domaine qui nécessite une formation. Comment renseigner effectivement la population sur les allocations familiales? Comment renseigner? C'est là où quelquefois les collègues ont besoin d'un volet de formation supplémentaire par rapport à cet accès au droit. Et surtout, effectivement, on le voit beaucoup dans les réflexions qu'on mène avec Raphaël, Gilbert, l'inclusion numérique. C'est souvent quand même des espaces d'inclusion numérique où il faut accompagner les collègues dans la dématérialisation des principales procédures administratives. Donc, ce n'est pas toujours évident pour les équipes de bibliothèque de franchir le cap, même s'il y a la volonté politique, même s'il y a l'architecture qui permet cette mutualisation. Après, c'est la question, est-ce que dans nos bagages de formation, dans notre formation continue, on peut venir effectivement sur ce renseignement au public, sur des domaines qu'on ne maîtrise pas toujours. Et en Seine-et-Marne, c'est la très belle réalisation de Laurel Le Bocage, la COP. Alors son nom, souvent les termes effectivement des maisons de services au public montrent bien cette mutualisation. Là, c'est la logique de coopérative qui a été mise en place. Autre réalisation qui sera présentée, aujourd'hui, c'est l'Agora à Metz. Et on peut citer également Lunéville, la très belle médiathèque de l'Orangerie. Et puis, donc, la nouvelle approche, les nouvelles approches, c'est les médiathèques ludothèques. Il y aura quelques exemples dans le forum tout à l'heure. La notion de tiers-lieu, qui sera au cœur, je pense, de la table ronde aussi, hein, ces espaces-là, de coworking. Et puis, la question des microfolies, qui bien souvent ont pris place, on le verra avec Grenet, au sein des bibliothèques. Et ça, c'était une demande du service du livre et de la lecture par rapport à nos collègues, par rapport aux collègues qui mettaient en place les microfolies. C'est que quand il y a rapprochement bibliothèque-microfolie, ce soit bien la bibliothèque qui puisse avoir la maîtrise, en fait, du fonctionnement de la microfolie. Pour la DGD Bibliothèque, donc j'en ai touché un mot, c'est donc l'outil principal dans la main des conseillers livres et lectures, hein, qui sont vos interlocuteurs de proximité pour vos projets. Dès 1986, la question, c'était le mètre carré bibliothèque. Qu'est-ce qui est un mètre carré bibliothèque? Comment le définir? On a eu aussi cette réflexion, effectivement, sur la question de la médiathèque, qui déjà ouvrait, en fait, la réflexion, qui a amené, effectivement, une évolution de la circulaire de la DGD Bibliothèque et la mise en place de deux programmes, mais qui restaient des programmes de bibliothèque, en fait. Hein. C'était aussi, si vous lisez le projet des bibliothèques municipales à vocation régionale ou les médiathèques de proximité, on est bien dans des équipements de bibliothèque, avec un projet de programme, les ruches, qui... Alors, effectivement, Christophe pourrait très bien en parler, hein, puisqu'il a suivi avec beaucoup... Christophe Séné, qui est de la ville de Paris aujourd'hui, mais a suivi de très près le programme des ruches. Et puis, effectivement, dans les années 2000, il y a eu l'apparition de deux concepts sur lesquels je ne vais pas m'attarder, effectivement, puisqu'on le connaît bien, hein, c'est le troisième lieu, et la photo, effectivement, c'est Thionville, hein, le troisième lieu devenu puzzle, sur lequel, effectivement, Anne Guillou interviendra tout à l'heure et présentera dans le forum. Et avec toute la réflexion qui a été menée, les strates de réflexion et les exemples internationaux qui ont irrigué, en fait, les conceptions de bibliothèques en France, notamment les ID Store, hein, dont on parlait beaucoup, on n'en parle plus trop. C'est là où on voit la question effet de mode. Hein. Cette diapositive, c'est aussi une question effet de mode par rapport à la notion de bibliothèque qui maintenant est bien définie, en fait, ce qu'est une bibliothèque, alors qu'un troisième lieu, un ID Store, qu'est-ce que c'est au final? C'est toute la question, effectivement, de ces définitions à géométrie variable. Et puis, côté universitaire, effectivement, c'est le Learning Center. Donc, il y a un très bon rapport de Suzanne Jouglet qui faisait le point, effectivement, sur la prise en compte, en fait, de ces espaces sur lesquels, effectivement, aujourd'hui, une université, forcément, elle ne fait plus une BU, elle fait un Learning Center avec la très belle réalisation, effectivement, de l'Iliade par Julien Roche. Juste une diapo pour rappeler effectivement les dernières données de fréquentation, hein, l'étude publique et usage des bibliothèques, qui nous amène forcément à évoluer, en fait. Hein, c'est là, quelques diapos pour montrer que la mutualisation peut être une réponse, en fait, à cette érosion des pratiques. Et puis, effectivement, dès 2011, Georges Perrin qui appelait à un autre mode de fonctionnement et, d'une certaine manière, il incitait, en fait, à venir effectivement sur le troisième lieu, sur la mutualisation des équipements. Aujourd'hui, le lecteur s'inscrit encore, l'usager souhaite avant tout fréquenter ce lieu en toute liberté, pouvoir y flâner, fureter dans les rayons, sans intention d'emprunt, surfer sur Internet, utiliser un espace de travail en toute tranquillité, sans contrainte particulière. Donc on voit effectivement cette mutation des bibliothèques qui appelle effectivement à penser différemment la bibliothèque, à réfléchir à des équipements multiservices. Et donc là, c'était une journée organisée par les bibliothèques de Seine-et-Marne en octobre 2015 qui a enclenché en fait la réalisation de la bibliothèque de Laurel-Bocage, la COP. C'est cette réflexion effectivement sur le fait que l'usager, le public, orienté public, il a peut-être besoin dans un même équipement d'avoir plusieurs services qui lui soient proposés. Et donc c'est sur cette base-là que donc la circulaire DG des bibliothèques a pris en compte l'hybridation des services. Et donc, aujourd'hui, effectivement, un équipement peut être mutualisé avec, effectivement, le travail sur l'utilisation des espaces, au prorata de l'utilisation des espaces. Donc, c'est vraiment un dialogue qu'il y a entre la collectivité et l'État pour le calcul, effectivement, de ces surfaces. Alors, quelques exemples, mais ils seront développés hein, par la suite. C'est la médiathèque Estaminet à Grenay, donc bien sûr, effectivement, ça vous sera présenté, avec la diversité des usages, et puis les cuisines, en fait, hein, qui apparaissent comme dans un certain nombre de bibliothèques. Alors souvent, c'est aussi parce que la médiathèque Estaminet a été visitée par un certain nombre de collègues, et ça a permis effectivement de diffuser certaines pratiques en bibliothèque. Il y a toute la réflexion de Lezoux, la médiathèque de Lezoux, avec la carte des usages, qu'on a reproduit dans la deuxième édition de Concevoir et construire une bibliothèque. C'est vraiment une réflexion intéressante, le participatif, de faire partager aux habitants en fait, le désir de bibliothèque. Et on voit rapidement le côté mutualisé qui apparaît dans la carte des usages, puisque ça va au-delà, bien sûr, effectivement, des seules activités traditionnelles de la bibliothèque. On aura aussi dans le forum la présentation du labo culturel, qui a été vraiment voulu par David Jonathan Benrubi, aujourd'hui directeur des bibliothèques de Montpellier, et qui sera présenté effectivement par Laurent Dirkens dans le forum, je crois, cet après-midi. Donc c'est une très très belle réalisation qui permet effectivement d'associer médiathèque, patrimoine écrit, centre de culture scientifique et technique. Ça, c'est vraiment un pari de David Jonathan Benrubi qu'il a réussi à convaincre ses élus de le mettre en place, et la notion de ville d'art et d'histoire. Je ne m'attarde pas sur Vaux-en-Velin, on l'a beaucoup suivi ce projet, et puis Jérôme l'évoquera. Vraiment les toutes dernières diapos pour insister sur quelque chose qui servira de base en fait à la table ronde, je pense, c'est l'importance du diagnostic des publics et du territoire. Donc là, c'est la phrase effectivement d'Éric Orsenna dans son rapport Voyage au pays des bibliothèques. Il n'y a pas de modèle unique. Les services publics locaux doivent être adaptés au profil du territoire où ils sont implantés. Et l'importance en fait du projet culturel, scientifique, éducatif et social, puisque quand le projet est bien établi, c'est quand même un socle, un élément de réussite important. Mais il faut bien que ce soit un projet scientifique et culturel, éducatif et social, tel que défini en fait par les textes. Et en guise de conclusion, le rapport déjà cité par Christine Carrier, le rapport effectivement de l'inspection des patrimoines vers une accélération des transferts et des mutualisations, qui effectivement, vous le voyez, indique des avantages et surtout mentionne des écueils et des limites. L'avantage, c'est souvent ce qu'on pense, l'union fait la force, la diversité fait la richesse, les écueils qu'on pose en débat pour la table ronde, mutualisation et économie. Pour les inspecteurs, c'est souvent à l'heure, ne serait-ce qu'en raison des moyens limités qui existent avant mutualisation. Mutualisation et polyvalence, la nécessité de maintenir une certaine spécialisation. On ne peut pas tout diluer, en fait, dans l'espace mutualisé. Mutualisation et complexification, ils identifient une perte d'autonomie, en réel comme en ressenti, un risque de lourdeur administrative et une complexification des organigrammes. Donc autant d'écueils, c'est pas des barrières, c'est pas des conditions sine qua non, c'est comment les appréhender de telle manière effectivement à ce que l'équipement soit une réussite. Et puis enfin, mutualisation et personnalité des établissements, risque de dilution, il est important quand même que la bibliothèque garde en fait son ADN au sein en fait de cette mutualisation. Même s'il y a contrat social, même si on mutualise, il faut quand même garder son identité. Voilà. Je vous remercie de votre attention.